Salut à tous, vous êtes là pour la troisième émission de Passement de Jambes. Bon, aujourd'hui on n'est que trois, on a perdu Jonathan pour des raisons non pas sur sa mauvaise analyse du football de la semaine dernière, mais voilà. Donc on est trois avec Boris et Gilles-Antoine.
Bonjour,
salut.
Alors on a dit, maintenant ce qu'on va faire dans les émissions, c'est qu'on va faire un petit retour un peu rapide sur ce qu'on a dit la semaine dernière, pour voir si on n'a pas dit trop de bêtises et si on était dans le vrai. Et après, on va parler un peu du match du PSG, ce match de vendredi qui a chamboulé un peu les choses. Et on va reprendre un peu sur le championnat anglais parce qu'il commence à être déjà joué au bout de 5 journées. Donc, c'est assez intéressant d'en parler. Je propose qu'on revienne rapidement sur l'émission de la semaine dernière. Les deux thèmes qu'on avait décidés, c'était quoi ? Bah, Anthony Martial, sur qui on a beaucoup parlé la semaine dernière par rapport au montant de son transfert. Boris, t'as quelque chose à dire là-dessus ? T'as vu le match, tout ça ?
Le match de Manchester ?
Ouais.
Ouais, je l'ai regardé. Bon, écoute... C'était assez intéressant après dans l'animation parce qu'on voit encore c'était vraiment coupé en deux. Hein. Je sais pas, j'ai vu Schweinsteiger qui jouait hyper bas avec Carrick et de l'autre côté on se retrouvait avec Depay et qui écarte. Enfin, c'est une équipe qui écarte vachement, mais on saute beaucoup les lignes. Hein, ça va, on voit les milieux offensifs finalement qui partent pas et qui construisent pas avec les milieux défensifs.
Et alors,
ça allonge pas mal. Et du coup, Martial, quand il
a joué quoi, 20 minutes sur Martial, il est à la 70e,
65e, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et il rentre du coup finalement pas trop comme un axial. Il rentre sur le côté.
Il est un peu sur le côté gauche.
Ouais. Et ça amène l'action du but. Et il apporte de la variété parce que Depay qui reste collé à son couloir. Qui déborde et qui sentent dans le dos ce dont tu parlais la dernière fois, qui sentent pas mal dans le dos des défenses. Ouais. Martial, ça apporte un peu de changement dans le jeu du Manchester, donc c'était pas inintéressant parce qu'il a percuté balle au pied. Il en veut sur le but, hein. Il a les comptes favorables.
Justement, c'est... ce but, alors il a quand même mis un but à Liverpool, c'est pas que des peintres en derrière. Il passe Skrtel.
Ouais, bon, c'est pas le meilleur défenseur non plus.
C'est pas le meilleur défenseur, mais bon,
il est
bon.
Non, mais il va à l'envie. On sent qu'il y va à l'envie.
Il y a quand même vachement de chance sur sa conduite de balle. Il y a un moment où il tape le ballon. Enfin,
ouais, mais tu sais ce qu'on dit, c'est le joueur qui s'engage le plus qu'à les contre.
Ouais, bien sûr.
Il avait la dalle. Bon, il voulait montrer qu'il était là-bas.
Je pense qu'il avait la dalle.
Il joue 20 minutes, il y a une occasion, il la met au fond.
Ah, il met un super but. Il y va, il mange 3 mecs.
Tu vois, c'est Anthony. Non, plus.
Non, mais c'est Anthony Wu. Ben, le mec, il a répondu, il fait c'est moi. Il est arrivé, il a montré. Il met un beau but. Il enroule après. Et les mecs ont fait genre, ah ouais, c'est lui Martial. Déjà, j'ai regardé un peu sur Twitter. Les mecs ont bien kiffé. Ok, peut-être qu'on a mis de l'oseille pour lui et c'était pas pour rien. Donc, bon, c'est qu'un problème. C'est bon, allez, 20 minutes,
faut confirmer,
25 minutes.
Faut confirmer.
C'est un bon début. Il pouvait pas mieux commencer que ça.
Il pouvait pas mieux commencer. Il rentre 20 minutes,
c'est
il met
sûr,
un but.
Mais bon,
franchement, c'est
même Van Gaal qui l'a taillé quelques jours avant en disant. Ouais, c'est pas moi qui l'ai recruté, c'est pour lui en montrant Ryan Giggs en disant c'est le futur, ce sera l'entraîneur du futur qui s'occupera de Martial. Moi, on verra bien. Et ben même lui, juste après le match, dit ok. Il nous apporte quand même.
Non, mais globalement, on peut conclure sur Martial en disant que le mec a montré qu'il avait des couilles, il y est allé, il a montré, il était hyper engagé, il a mis son but au bout de 20 minutes. Franchement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui valent ce prix-là, qui vont dans des clubs aussi gros, qui marquent dès leur premier match. C'est
non,
quand même
c'est un très bon début,
hyper intéressant.
De là à dire que bah, c'est bon, ça y est, une star est née.
On dit
juste qu'il a.
Mais c'est des putains de bons débuts quand même.
Exactement.
Franchement, à Manchester, c'est pas mal. Bon, voilà, Martial, du coup, a confirmé, mais on est tous d'accord pour dire qu'il a fait le taf et que c'est un mec qu'on a.
On peut se dire même qu'on porte, je sais pas si on porte l'œil ou pas aux gens, ou au contraire, dès qu'on parle mal d'eux, il se réveille.
Parlons de Matuidi.
Je pense que Jonathan, aujourd'hui, il sèche parce que Matuidi n'est pas un leader technique.
Ce qu'il faut quand même qu'on vous raconte à vous qui nous écoutez, c'est-à-dire qu'on a regardé, on a fait l'émission juste avant le match de l'équipe de France. C'était le débat, Matuidi, c'est pas un leader technique, etc. Bon, il met un but en pleine lucarne, reprise de volée.
Mais c'est pas un leader, c'est pas un mec technique.
C'était magnifique.
C'est de la chance.
C'était magnifique. Moi, je reste persuadé aujourd'hui que Matuidi, c'est la clé pour l'Euro 2016. C'est tout le monde dit Pogba, machin, bidule.
Moi, je vote pour.
Avec un Matuidi faible, l'équipe de France, elle est cuite. Ouais. Elle est cuite. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles-Antoine ?
Bah, faut attendre que. Moi, je pense que Pogba peut être vraiment hyper, hyper intéressant, mais c'est peut-être un peu trop.
Ok, cool. Alors à choisir, si on a un des deux qui doit pas jouer, lequel tu fais pas jouer ? Moi, Matuidi, je le mets sur le terrain, mais systématiquement.
Non mais maintenant, oui, Matuidi, dans 2 ans, je suis pas sûr. Enfin, Pogba aura éclos, quoi.
Ouais, Matuidi, il a quoi ? 27 ans ? 28 ans ? 27 ?
28. On parle de l'Euro 2016, là.
Ouais, bah
là, on parle pas de dans 2 ans.
Pour l'Euro 2016, je sais pas qui va être le joker de l'autre. Quoi.
Est-ce que tu crois pas, à un moment, moi je reste aussi persuadé de ça, c'est que Matuidi aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain français, mais de très très loin.
Ah ouais ?
Mais il joue pas à la Juve, il joue pas à l'étranger, et Pogba, tout le monde en parle, il a sa coupe de cheveux et tout. Pogba, moi je le trouve vraiment moins bon que Matuidi, moins décisif, en tout cas en équipe de France après la Juventus.
Dans un collectif. Un peu moins, mais
dans un collectif, il ouais, est derrière, il est devant, il marque des buts, okay, enfin, c'est improbable.
Je pense que pour un entraîneur, il vaut mieux avoir Matuidi que Pogba
bien sûr,
dans un collectif. Après, pour un club, il vaut mieux Pogba que Matuidi. C'est-à-dire que pour vendre des maillots...
Plus bankable, ouais, je suis d'accord.
Non, c'est aussi utile dans le football moderne. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui met des frappes de 30 mètres, qui met des doubles contacts et qui viole des défenseurs, c'est un joueur qui te rapporte. Tu vois, c'est un mec qui va te faire, qui te fait aussi gagner des matchs. Parce que bon, Matuidi, c'est quand même rare qu'il soit vraiment décisif. Il a mis des gros buts en Ligue des Champions pour le PSG.
Ouais, le début de saison, il porte le PSG tout seul, les trois premiers matchs.
Après, on verra en Ligue des Champions ce que ça donnera. On verra avec l'équipe de France. Pour l'instant, l'équipe de France, il ne l'a pas fait. Pogba non plus. Okay,
non, mais, Pogba non plus.
On verra ce que ça donne. Mais moi, là, en plus, ça pourrait confirmer cette tendance-là. Parce que Pogba, il a du mal en début de saison. Il a du mal à confirmer avec la Juve. Est-ce que... C'est ce qu'on disait dans la dernière émission. Est-ce qu'il peut tenir ce rythme-là tout le temps? Ce sera la question un peu.
Je trouve que Matuidi, Pogba, c'est le mec qui est hyper technique. Matuidi, là, il était bizarrement hyper technique, mais surtout, il a une endurance et une implication sur le terrain qui est assez phénoménale. Et c'est peut-être là où il fait la différence.
Ouais, c'est un besogneux,
c'est un mec intelligent. Porte,
ouais, il a pas l'air débile.
Tu regardes sa marge de progression. Mec il est de 3 à Saint-Té au PSG et maintenant en équipe de France.
C'est hyper linéaire, c'est hyper intelligent comme choix de carrière.
Exactement. Et puis je sais pas si on aurait vraiment mis une pièce sur Matuidi quand il était à 3. C'était un mec. Non. Qu'est-ce qu'il avait de meilleur, de mieux que Rio Mavuba, tu vois? C'était
le même profil. Il était prometteur, mais Saint-Étienne c'était un super bon palier et au PSG il est arrivé, il était déjà bon, mais il franchit des paliers.
Après, je pense que c'est des mecs.
Au niveau d'exigence imposé par les investissements.
Moi je trouve qu'aujourd'hui au PSG, depuis qu'il est arrivé, c'est le joueur qui a le plus progressé dans le jeu.
C'est fou.
Mais un truc de malade.
Surtout quand
Verratti arrivé était fort, Matuidi, la progression, elle est fulgurante.
Et puis quand il arrive pas pour être titulaire. Hein, parce que si tu te rappelles, on recrute.
Il arrive avec les Qataris, il arrive avec Pastore.
On recrute Momo Sissoko ce mercato-là. C'était clairement Momo Sissoko qui devait jouer. Hein. C'était pas Matuidi, voire Mathieu Bodmer cette année-là en 6. Et finalement, il a éclipsé tout le monde. Alors après, c'est clairement, je pense, le profil de mec qui est bien tombé au niveau du timing. C'est-à-dire qu'il arrive à la période où Zlatan arrive, Cavani
arrive. Il est arrivé un an avant les autres.
Période Qatari, si tu l'avais mis au PSG il y a 10 ans avec Paoletta, je pense
compliqué.
Malheureusement, à part Paoletta, est-ce qu'il y avait des gros joueurs à côté? Non. Ça aurait été un bon joueur du championnat de France, mais je pense pas qu'il serait arrivé à ce niveau-là. Il tombe, c'est le bon timing.
Ouais, mais il sait faire aussi la bascule pour devenir un gros joueur.
Parce qu'il est intelligent.
Ouais, je suis d'accord.
Néné, par exemple, n'a pas réussi à monter son niveau.
Néné, il était plus âgé aussi, c'était un peu différent. Mathieu dit, il est arrivé quoi, 23 ans au PSG, 24 ans, il venait de Saint-Etienne, il franchissait les paliers intelligemment. Je pense que c'est un bon choix de carrière. Et voilà, donc tout ça pour dire, mon avis personnel, c'est que Mathieu dit, c'est la clé de l'Euro 2016. J'en suis persuadé.
Et que Jonathan n'est pas là ce soir.
Et que Jonathan n'est pas d'accord. Et Jonathan, il dira que la clé, c'est la Sanadiara. Alors, justement, on parle de Matuidi. C'est un bon enchaînement pour passer sur le match de vendredi du PSG.
Moi, j'étais au silence. Parc.
Alors, j'étais Boris, au parc. Raconte-nous tes impressions. Alors,
prendre la ligne 9 pour rentrer du parc après un match comme ça, c'est très long. Très, très, très long.
C'est trop long.
C'est beaucoup trop long. On va parler de Trapp, hein, mais les mecs n'étaient pas au niveau. Hein. Enfin, Trapp a été à l'image du Paris Saint-Germain vendredi. C'est-à-dire que beaucoup trop de déchets. Verratti, il a perdu énormément de ballons. Mota a perdu énormément de... Matuidi, alors Matuidi, peut-être qu'il était fatigué, là, on parlait de Matuidi juste avant, mais Matuidi, il a été transparent.
Bah, il doit être net à son 10e
match de saison. Ouais, sûrement. Mais dans un match comme ça, ça pèse.
Ouais,
et tu te dis, Trapp, il rate ce ballon-là. Même sur le corner, c'est peut-être un peu moins flagrant, mais...
Sur le corner, qui met quelqu'un au premier poteau.
Oui, c'est...
Non, mais le problème, c'est qu'au premier poteau, c'est Cavani, et Cavani, il sort. C'est bon, après, c'est un autre débat, mais le truc, c'est que je pense qu'il y a eu il y a eu deux PSG pour moi. Il y a eu le PSG de la première mi-temps qui était serein et qui a été hyper efficace.
Du dernier quart d'heure, alors.
Ouais, si
parce
tu veux.
Parce que les 20 premières minutes...
a été hyper efficace, quand même.
C'était quand même hyper laborieux et on n'a pas vu grand-chose au niveau du
d'accord,
foot.
D'accord, mais ils ont été efficaces. C'est une équipe qui gagne les matchs, même si elle ne domine pas, etc. En première mi-temps, c'était vraiment ça. Ils ont un coup franc, ils le mettent. Une action un peu chelou où Carrasco, il lâche le ballon, ils le mettent. Derrière, on rentre en deuxième mi-temps.
Di Maria, il rate un... Je pense que le c'est Di Maria qui rate le face-à-face.
C'est quoi, c'est en première mi-temps encore?
Ah ouais, c'est à la 40e, c'est 5 minutes après le deuxième but.
Et après, on a le PSG de la deuxième mi-temps qui se met dans son siège de sénateur, qui se branle un peu la nouille et qui se fait des passes à 5 mètres, à 3 mètres, qui revient en arrière, etc. Et c'était un espèce de faux rythme. Et derrière, Bordeaux a été hyper bon sur le pressing. Ils ont quand même fait un travail de pressing impressionnant.
Bah, d'habitude, ça ne paye pas, ils se fatiguent. Mais quand il n'y a pas de justesse technique, bah, tu le payes. Là, et moi, je pense que le PSG a payé un peu ces erreurs-là. C'est qu'il n'y a pas eu assez d'application dans les passes.
Après, avant qu'on reparle du cas spécifique de Kevin Trapp, j'aimerais bien revenir un peu sur cette équipe de Bordeaux. Moi, je les ai trouvés hyper violents. Entre guillemets, en tout cas ils jouent hyper solide, hyper physique, ils mettent vachement de coups. Ouais. Henri Cévé, il prend deux cartons jaunes, ils sont totalement justifiés.
Il comprend pas.
Et Willy Sagnol, il s'énerve. Et il y a un moment où cette équipe.
Poco, il aurait dû en prendre. En fait,
c'est scandaleux.
Je pense que c'est très mal arbitré violent.
C'est pas bien.
C'est très mal arbitré. T'attends pas la 70e pour mettre un carton jaune. C'est dans un match comme ça, c'est pas normal. Moi, quand il prend le rouge, je dis c'est de la faute de l'arbitre. Tu le mets à la 30e minute.
Ouais, non, le jaune. Il prend le jaune sur le coup franc.
Il y a Poco, il aurait pu en prendre deux aussi.
Non, mais ils sont donc, Bordeaux joue hyper violent.
Donc,
moi,
si jamais tu calmes les esprits en mettant un gros carton, mais même de la 10e minute, il y a eu des tacles qui n'auraient pas dû. Enfin, tu vois, même. Aurier, le tacle qu'il met.
Ouais, Aurier, moi j'ai eu peur.
C'est bizarre, tu vois. Là, il y a des actes forts. Tu vois, là, tu laisses monter l'agressivité, la tension dans le match. C'est
mais on est d'accord que Bordeaux a quand même été agressif tout le match et que Willy Sagnol, qui a dit ferme ta gueule à Jean-Louis Gasset ou je sais pas quoi, il commence à s'énerver. Moi, Willy Sagnol, j'en peux plus en fait. Il ouvre trop sa gueule, il se prend trop pour un déglingo, il sort des conneries l'année dernière avec sa polémique sur les joueurs africains, etc. C'est un mec qui l'ouvre trop et qui foncièrement est pas objectif, mais comme aucun entraîneur n'est objectif. Mais voilà, moi j'ai trouvé Bordeaux hyper violent, j'ai trouvé que c'était pas très bien arbitré. Après, j'ai trouvé qu'ils ont été très bons dans le pressing, mais que
ils ont
un
joué
mec
avec leurs
comme
armes.
Palois à la fin du match, excuse-moi, mais il y a 25 fois pénalty.
Je suis derrière le but, je suis à 30 mètres de l'action, je le vois, c'est dans mon axe.
C'est une blague.
Il attrape par les deux épaules.
Mais l'arbitre, on voit le ralenti, il est dans le champ de vision. C'est juste une blague. Et Bordeaux a joué comme ça tout le match.
Et quand il ose, après Agathe Cavani, il lui fait ta plongée. Et Sagnol qui dit se tenait tous les deux. Bah non, il se tenait pas tous les deux.
Non, après, ça finit en baston général, etc. Mais ça, c'est le jeu bordelais. Moi, ça me rappelle un peu le Montpellier qui a été champion, qui était un peu violent, les équipes de René Girard, etc. Pas du tout, mais c'est pas le jeu que j'aime en tout cas.
Ouais, ou d'Antonetti, c'était c'était un spécialiste aussi pour monter des équipes comme ça avec Rennes.
En tout cas, ça prouve un truc, c'est que s'il y a un peu de justesse technique et un peu d'agressivité, pas forcément violente, en tout cas, des équipes peuvent mettre le PSG en difficulté.
Ouais, s'ils prennent les matchs par-dessus la jambe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé.
Mais à chaque ballon aux 30 mètres du but du PSG, il y avait des pressings bordelais, il y avait des mecs, ils étaient là.
Mais d'habitude, ils s'en sortent facilement. Là, je sais pas pourquoi ils se sont.
Bah, techniquement, il y a eu trop de déchets. Alors, on va.
Qu'ils anticipaient la Champions League.
Mais certainement, mais
on va se jouer à la cool histoire d'être au top.
C'est sûr, et je pense qu'à 2-1, ils se sont dit que c'était plié. L'action de Di Maria, ils se sont dit vas-y, on va gérer, ils ne vous mettront pas de but. Et puis voilà, ils se sont fait plier.
Il y a un autre truc qui est symptomatique des tribunes aussi. Je te le disais en sortant du match, mais c'est aussi que c'est tout le club qui est comme ça un petit peu maintenant. C'est qu'on prend un peu les matchs de par-dessus la jambe et les supporters également.
On a plus peur de Bordeaux.
À 2-1. À 2-1, j'entends du virage qui tombe quoi, des olés. J'entends quoi ? Oui, mais ils sont où les Bordelais ? Mec, il y a 2-1. T'as pas connu le PSG en 2003 ou en 2002, mais à 2-1, on serrait les fesses.
Toi et
franchement,
moi.
À 2-1, on serrait les fesses. J'étais abonné toute cette période-là, de 99 à 2004. Mec, je serrais les fesses quand il y avait 2-1. Et on disait, non, on s'enflamme pas, on fait pas des olés à 2-1. À 4-0, tu fais des olés. Ouais. À 2-1, à la 40e minute, tu fais pas des olés. Et peut-être qu'on joue comme ça aussi. Il faut un peu d'humilité parfois.
Et nous qui avons déjà vu pas mal de matchs de foot, franchement, est-ce que toute la première demi-heure de la deuxième mi-temps, tu t'es dit qu'on allait se le prendre ? Moi, j'étais persuadé.
Ah ouais, moi, je l'ai vu arriver.
Mais c'était une évidence. On n'était pas dedans, les Bordelais étaient au pressing, etc. Pour moi, ça puait le 2-2.
Je l'ai vu arriver.
Alors, après.
Bon, j'ai espéré les trois dernières minutes parce que ça a quand même pressé. Après, on a eu quelques grosses occasions dans les trois dernières minutes.
C'était pas dingo, quoi.
Mais je trouve qu'on a. Le 2-2, il est mérité au final. En tout cas, il est mérité pour Paris parce qu'ils n'ont pas mis assez
d'efficacité. Bordeaux, ils mettent quand même deux buts un peu chelous. Le premier, on va peut-être faire un peu plus rapide parce qu'il est moins flagrant. Pour moi, il y a une énorme faute de main de Trapp. Mais ça va vite, faute hein. de concentration.
Ça va tellement vite.
Mais après, t'as le débat, tu mets Sirigu sur le banc et t'achètes un mec pour le faire jouer, pour te faire gagner des matchs. En l'occurrence, Sirigu, il nous a jamais fait gagner des matchs ou des points. En l'occurrence, Trapp, il nous en a fait perdre. Là, c'est... Enfin, techniquement, il nous a fait perdre des
points. Sirigu, il s'est jamais trouvé sur des corners.
Bah, je sais pas, mais c'était pas aussi
flagrant. C'était pas une faute de main, mais il s'est jamais trouvé sur des sorties où il sort pas.
C'était pas aussi flagrant, c'est ça que je veux dire.
Et après, il y a personne au premier qui la coupe. Ça, la balle est déviée. Moi, le premier, pas trop débat. Attends, la balle, ça va hyper vite. Quand tu vois le ballon arriver, je suis même pas sûr qu'il la voit vraiment arriver comme ça. Elle sort peut-être au dernier moment. Okay. J'aimerais bien voir le but de son angle à lui.
Ok, vois, passons sur le premier but dans ce cas. Le premier but, il est pas
fusillé là-dessus.
Ok, je comprends. Mais alors, le deuxième but, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce deuxième but?
Bah, Jean-Bart, aime les boulettes.
il a été recruté pour son jeu de pied. Bon, bah voilà, un bon recrutement.
Jean-Bart, il est dans le sarcasme. Bam.
Non, mais moi, ok, il a fait une énorme erreur. Caserie absolument génial pour aller au pressing comme ça et puis s'arracher pour lui prendre la balle. J'ai été surpris par la réaction de Laurent Blanc qui a dit bon, on change rien.
Mais alors, ouais, mais ça c'est un peu normal, il a pas forcément le choix parce que.
Est-ce qu'il va il le jette au bout d'un match?
Il peut pas le jeter au bout d'une boulette, mais.
Il peut très bien dire. Il peut très bien dire, genre, bon bah hop, on va retravailler certains aspects. Là il dit non, on va rester comme ça.
Ouais, mais il y a deux choses en fait, c'est que le mec a fait recruter un gardien pour mettre Sirigu sur le banc. Si le gardien qu'il a recruté au bout de 4 matchs, il le dégage pour une boulette et qu'il remet Sirigu, à mon avis, son autorité au sein du vestiaire, elle est un peu baisée. Je pense qu'il y a un côté un peu comme ça, il a pas le choix, il est obligé de tenir sa route.
Oui, non, mais après tu peux aussi quand même lui faire comprendre que le gars il a fait une erreur et que c'est qu'il faut travailler plus parce que sinon après. Alors, oui, il est pas titulaire indiscutable.
Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette nouvelle mode d'avoir des gardiens qui sont libéraux, qui savent jouer au pied, qui sont relanceurs, etc.
Oh, le réac.
Non, mais globalement, combien il y a de gardiens qui sont capables de bien jouer au pied? Pour moi, il y a Neuer, mais c'est quasiment tout, en fait. Et là, on est en train d'imposer un modèle footballistique.
Tout. T'es malade ou quoi, toi?
Bah, vas-y, donne-moi des noms.
Yoris,
ouais. Ouais, mais Yoris, c'est pas pareil. Je suis désolé. Non, ça n'a rien à voir. Yoris, pas du tout. Dans le championnat de France, il joue pas du tout comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train.
C'était il y a 6, 5
ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'énerve, c'est qu'on est dans une espèce de globalisation du football.
Valdés. À Barcelone, il était meilleur avec les pieds qu'avec les mains.
Hein, ouais, ça, avec les mains, c'est sûr. Il était meilleur avec les pieds, mais c'est un problème, ça, parce que c'est un gardien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de globaliser le football, ça m'énerve un peu. C'est qu'on est en train de dire il faut des joueurs qui jouent dans des petits espaces, il faut des gardiens qui soient libéraux, etc. Mais globalement, des mecs qui ont le niveau de jouer comme ça. Et moi, je pense que Kevin Trapp, aujourd'hui, est très, très, très loin du haut niveau et encore plus loin de tout ce qui est technique, notamment balle au pied, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Pour moi, Kevin Trapp, il vient de montrer les limites de son jeu. Et je pense que dans le championnat allemand, ça peut passer. Dans le championnat de France, on a vu que c'était chaud. Putain, mais en Ligue des Champions, ça va donner quoi?
Alors là-dessus, j'ai envie juste de lui laisser un petit peu sa chance. Parce qu'au bout de 4 matchs, c'est comme Martial. Quoi. Martial, j'ai pas envie de l'encenser tout de suite. Trapp, j'ai pas envie de l'enfoncer tout de suite. C'est juste que j'ai été surpris par la réaction de Laurent Blanc qui porte même pas un petit peu la critique sur... Sur son achat
Enfin, alors, aujourd'hui, en conférence de presse, dans le match préparatif de Ligue des Champions, il dit quand même qu'il a discuté avec Trapp, qu'il est conscient de ses erreurs, que ça l'a quand même coûté 2 points. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Bon, bah là, c'est lui. Quand c'est le gardien, ça se voit beaucoup. En un match, il lui est arrivé beaucoup de choses, peut-être plus que dans sa jeune carrière. Je lui ai dit, c'est bien, mais c'est fini maintenant. Tu vois, il remet quand même les choses au clair.
Non, mais
tu
il va le sermonner.
Il dit, tout le monde est soumis à la concurrence, elle existe aussi chez les gardiens, et pas depuis le match de Bordeaux.
Ok.
Tu vois, et il dit après derrière, moi, s'il y a la même action, j'espère qu'il retentera la même chose, mais que cette fois, il réussira.
Alors,
ok, bah moi, j'ai juste écouté un extrait de la conférence, et du coup, c'était pas du tout cette tonalité-là.
Mais au niveau du mental, alors, est-ce que ça monte pas les limites d'un gardien comme ça? Le mec, il arrive dans un grand club, il vient de Francfort, au bout du 4e match, il se troue lamentablement. Monte les limites.
Moi, je suis pas du tout d'accord.
Psychologique du mec.
Je suis pas du tout d'accord. Tu peux te trouver même 2 fois dans le même match. Moi, les limites psychologiques, dans ce cas-là, alors Thiago Silva, il joue plus. Il a pleuré contre l'Allemagne. Ça a fini. C'est le même débat. Ça veut dire qu'un mec, tu lui laisses, il peut pas se trouver.
Et non, en plus, là, Thiago Silva,
il a craqué sur un match.
Il a l'expérience. Lui, il vient d'arriver.
Pastore, quand il est arrivé, je sais plus quel match, il fait une passe en rentrée moisie, le mec, il part en 1 contre 1 but.
Ouais, mais
on perd deux points. C'est de la faute de Pastore. Verratti, l'année où il arrive, on s'est tous extasiés sur les crochets dans la surface. Il a coûté des buts déjà.
Au début, c'était horrible. Ouais, mais, faisait peur.
Ouais, mais attends, et dans son interview de SoFoot il y a quelques mois, il disait ouais, le jour où on prendra un but à cause de moi, Laurent Blanc, il me tuera. Ouais. Mais il l'a déjà fait. Sous Ancelotti ou sous Comboiré, je sais plus. Mais il l'a déjà fait.
Donc pour toi, Kevin Trapp,
moi, je lui laisse
il
sa
va
chance.
S'imposer et il va être hyper
non,
bon.
J'en sais rien, mais je dis que c'est pas. Pour moi, c'est en aucun cas une preuve qu'il va se planter. Tu vois, il a peut-être raté un contrôle. Comme tu vois, là, je suis d'accord avec Laurent Blanc. Quand c'est le gardien, ça se voit.
Et est-ce que tu crois
que tu mets contrôle raté dans le match des autres joueurs?
Ouais, non, mais il y en a eu plein, des passes ratées. Je suis d'accord avec toi.
Et 3 minutes avant qu'il fasse sa bourde, il sort un arrêt. Mais
sur le coup franc, ouais, la tête déviée, ouais, c'est pas mal.
Mais mec, le réflexe pour aller se coucher, le ballon il traîne dans les, c'est une tête dans les 6 mètres. Le mec,
qu'il y a un bordelais derrière.
La balle, elle est à son poteau, il va la chercher, il la sort. Moi, je veux bien qu'on revoie cet arrêt-là et qu'on en reparle aussi, parce que tu vois, si c'est un gardien aussi moisi, ok, il s'est trompé. Je lui donne le bénéfice du doute encore. C'est pas parce que t'as raté un contrôle. C'est arrivé à Bernard Lama, c'est arrivé à Fabien Barthez. C'était des grands gardiens qui jouait au pied. Barthez, il était hyper bon au pied. Il en a fait des bourdes comme ça. Lama aussi, de vouloir mettre des crochets, de se faire prendre le ballon. C'est arrivé à d'autres gardiens. Peut-être que ça. J'espère que ça lui arrivera plus.
Bah, j'espère que c'est pas symptomatique de son changement dans un grand club, parce qu'il vient que de Francfort. Et peut-être, j'espère que c'est pas ça.
Ouais, mais Pastore, il venait de Palerme. Verratti de Pescara, j'en sais rien. C'est des mecs qui ont aussi eu.
Ils augmentent.
Voilà. Qu'on suit remonter. Si, franchement, s'il s'en sert pour rebondir et montrer qu'il est hyper fort, bah, ça. Tu vois, je me dis pourquoi pas. Enfin, je vais pas. En tout cas, c'est en aucun cas une preuve aujourd'hui. On verra. Je lui laisse encore. Allez, si on verra dans 10 matchs.
Tu vois. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est aussi. Il était juste le reflet de l'équipe qui a été suffisante et lente et pas appliquée dans toute la deuxième mi-temps. Et que finalement, c'est juste le dernier maillon de la chaîne. Mais que toute l'équipe a joué comme ça quasiment toute la deuxième mi-temps, en fait.
Après, là où tu as raison, c'est aussi, est-ce que c'est pas symptomatique d'une capacité à rester concentré ou pas? Parce que c'est pas évident. Hein. Donc sur les premiers matchs, il avait bien réussi à le faire. Contre Montpellier, il a rien à faire, il sort une parade de malade.
Sur la tête.
Mais bon, après, j'espère que c'est un accident. Déjà, on verra demain. Tout le monde lui met la pression. Tu vois, Sagnol qui en rajoute une couche en disant merci à Kevin Trapp après le match.
On va pas revenir sur Willy Sagnol, s'il te plaît. Ça m'énerve.
Non, mais là, l'attaquant de Malmö qui dit j'espère que Kevin Trapp sera affaibli psychologiquement. Bon, bah voilà.
Mais à mon avis, il y a.
Mais d'ailleurs ouais. Qui va jouer la. Enfin, c'est Sirigu, il va pas jouer la Champions League. Il aurait pas négocié dans.
Laurent Blanc, il a annoncé que c'était Trapp en Ligue des Champions.
Non, par contre, à mon avis, à la prochaine boulette, dans le mois qui arrive, il sortira de l'équipe.
Ouais. S'il fait une autre boulette, là, dans le mois qui arrive, dans les 5 prochains matchs.
Ouais, il est mort.
Salut.
Mais il faut qu'on voit comment il va réagir. Après, est-ce que c'est un grand joueur ou pas? Est-ce que c'est un bon gardien? Après, ça montre aussi un peu la limite de tous les gardiens sur le marché international. Il y en a quand même très peu qui ont un niveau de ouf, quoi. Ils sont 4 ou 5 à se tirer la bourre. Et puis comme d'habitude,
quand même, hein.
Comme d'habitude, sur le marché des transferts pour les gardiens, tant qu'il y en a un tant que personne ne bouge, rien ne se passe. Là, il y a quoi? Il y a Derea qui devait bouger.
Qui n'a pas bougé.
D'ailleurs, Gilles Antoine nous avait fait une belle analyse la semaine dernière, qui n'a pas bougé à la dernière minute. Résultat, ça a été le statu quo partout, quoi.
Non, mais après, t'as Buffon, il a 40 ans. Ouais, Casillas, il a 36
D'ailleurs,
ans.
D'ailleurs, il est au Bayern, il ne bougera pas.
Neuer, il partira jamais du Bayern. Thibaut Courtois. Il n'est pas prêt de bouger et heureusement qu'il est là à Chelsea. Parce
Ter Stegen, c'est pas un super grand gardien.
Moi, j'y crois. Moi, je suis pas fan de Ter Stegen. Franchement, j'arrive pas avec ce mec-là.
Moi, j'adore Derea, mais Neuer, je trouve que c'est quand même les meilleurs.
Bah, Neuer est au-dessus de tous. Pour moi. Et après, c'est Thibaut Courtois. Enfin, l'année dernière, c'est à PSG Chelsea au Parc. Si c'est pas lui, Chelsea il repart avec 4 buts. Hein, parce qu'il fait 4 gros arrêts. Après, il y a d'autres gardiens assez jeunes qui ont une marge de progression intéressante. Tu vois, Anthony Lopez, s'il continue comme ça.
Anthony Lopez, ouais, très très bon, très prometteur à mon avis.
S'il continue comme ça, il restera pas à Lyon et ad vitam aeternam.
Hein. Ouais, je suis d'accord. Alors justement, on parlait de Thibaut Courtois, c'est la bonne transition pour parler de Chelsea et du championnat d'Angleterre.
On va faire un raccourci, c'est ça?
C'est la quoi, 5e journée?
Ça s'est plié.
C'est le genre de raccourci qu'on aime.
11 points de retard sur Manchester City. Ce qui est quand même juste un gouffre quand on sait comment ça se passe dans ces championnats-là. Genre le Barça et le Real, quand ils perdent les deux premiers matchs, c'est la cata, ils ont déjà 6 points de retard, c'est impossible à rattraper. Est-ce que Chelsea a perdu le championnat, à ton avis, Boris? Et Gilles-Antoine, tu vas répondre après.
Moi, je pense que oui. Enfin, c'est un peu triste, hein, mais enfin, en même temps, on pourrait dire la même chose du championnat de France, tu vois. Mais bon, bref, je pense que là, c'est 11 points de retard.
Hein. Ouais, mais c'est 11 pas. 11 points de retard. On parle pas de Lyon-Marseille, on parle de Chelsea quand même, ouais. Qui a quand même un mais après, doublé.
Et ben, ça dépend. City a assez prouvé dans les dernières années sa capacité à être irrégulier en fin de championnat et à s'effondrer. Ou alors ils reviennent
quand gagner à la dernière minute.
Ou alors ils reviennent quand ils partent de loin. Donc, mais quand ils ont un peu d'avance, ils ont plusieurs fois c'est arrivé qu'ils s'effondrent. Alors ça dépendra peut-être de ça.
Et tu crois pas que City commence à être plus mature aussi? Les joueurs ils ont moins bougé. Il y a un moment où
ils gardent plus stable. Ils gardent le même groupe. Ils gardent le même groupe. Donc ça dépendra.
Je pense que l'équipe est plus sérieuse et plus impliquée.
Alors j'ai pas vu De Bruyne jouer.
Donc peut-être aller en quart de finale cette fois-ci de Champions
League. Voilà.
S'ils sortent du groupe déjà. Mais ouais, si, bon, en plus, bon, City, c'est quand même une équipe qui essaye de faire du jeu. En Angleterre, c'est un peu rare. Donc, c'est peut-être aussi ça qui leur a joué des tours. Parce que l'année dernière, où deux de leurs joueurs les plus physiques étaient quand même en deçà, à savoir Kompany et Yaya Touré, on a vu que ça a été difficile le championnat pour eux. Donc, si vraiment cette année les mecs sont au top et qu'en plus ils font du jeu, ils peuvent aller au bout. Puis,
ils arrivent à gagner 1-0 quand ils sont en galère.
Ils ont quand même Agüero, c'est une machine. Et si Sterling et De Bruyne confirment, ils seront plutôt pas mal. Et en Ligue des Champions, ils pourront peut-être espérer mieux. En tout cas, pour le championnat, je sais pas si c'est plié, mais ça va être très 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 compliqué pour Chelsea de revenir.
Alors moi j'espère que c'est plié parce que j'ai du mal avec José Mourinho. Et justement, alors est-ce que vous croyez pas que ce qui se passe maintenant pour Chelsea, ça montre pas un peu les limites du management à la Mourinho? Est-ce que c'est pas du management old school finalement? Est-ce que c'est pas lassant pour tout le monde? Ça saoule tout le monde et finalement sa technique marche plus. Est-ce que c'est pas une technique d'il y a 10 ans de mettre la pression, d'appeler les journalistes, de prendre tout sur lui, d'être dans la provoque?
C'est Bernard Tapie de 2015, José Mourinho.
Est-ce que tu crois que ça va marcher encore? Moi je me demande si c'est pas la fin
d'un cycle pour Mourinho. Ça a amusé les médias et là je pense que ça commence à les saouler. Bah, là ça. Sur le dernier match, de quoi il a parlé après le match pour expliquer la défaite? Il a encore parlé d'un truc qui avait rien à voir, mais c'est toujours comme ça. Des kilomètres du truc quoi. Pour dire pourquoi il avait perdu, je sais pas,
Moi mon sentiment c'est que les entraîneurs comme Mourinho, enfin Mourinho en l'occurrence, il commence à être isolé dans le milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mecs qui rentrent dans son jeu, etc. Et que finalement j'ai l'impression que c'est un peu Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent, qui agite les bras, et finalement ça n'intéresse plus personne, et même plus son équipe en fait.
Non mais je pense que lui il ne marche comme ça qu'en étant haï. C'est-à-dire qu'il est très bon que si jamais il est haï.
Non, il est bon s'il est haï et si son équipe le suit. Et aujourd'hui ça n'a plus l'air d'être le cas.
Alors, regarde, au Real ça n'a pas marché.
Au Real, ils ont été champions.
Sur la fin ça n'a pas marché.
Ouais, c'était cata.
Il s'est embrouillé avec Sergio Ramos, avec Casillas, tout le monde le détestait.
Oui, bah, c'est Dieu ou c'est pas Dieu.
Depuis l'Inter, c'est à l'Inter qu'il a fait ses derniers faits d'armes en jouant. Il joue à 11 derrière.
Samuel Eto'o en arrière-gauche.
Contre le Barça et après il fait le tour du terrain quand il est qualifié pour foutre la haine à tout le monde. Et voilà, c'est son dernier gros fait d'armes.
C'est pas 2010 ?
Je pense que c'est ça. Après, prendre une Liga avec le Real quand t'as des Galactiques à tous les postes, c'est pas un exploit en soi. Et tu vois, à Chelsea l'an dernier, Chelsea, ils sont champions en jouant mal quand même. Ils sont champions en jouant mal.
En physique.
Et ils gagnent les matchs à l'arrache, en jouant en contre-attaque, alors qu'ils avaient des quand même, ils ont très
bons joueurs. Il y avait un effet fraîcheur l'année dernière. Il y avait Fabregas qui revenait, il y avait Diego Costa.
Gros effet fraîcheur, Diego Costa.
Non, ouais, je suis d'accord. Mais je veux dire, il y avait un truc un peu comme ça où les gens ne les attendaient pas.
Diego Costa.
Il est complètement nul, Diego Costa. Mais ce que je veux dire, moi, je reste persuadé que tout Mourinho qu'il est, sa technique, elle prend pas. Et je pense qu'il y a aussi
elle
un moment...
Elle prend plus.
Elle prend plus. Et s'il y a un moment où les mecs du PSG le voulaient, je suis sûr que l'année prochaine, il viendra pas. Parce qu'il préfère un mec un peu plus lisse comme Laurent Blanc, mais qui a des résultats et qui, à mon avis, mine de rien, doit tenir un peu son vestiaire quand même, plutôt qu'un mec qui va mettre de l'huile sur le feu. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que dans le football moderne, où les mecs qui achètent des clubs, qui ont de l'oseille, ils cherchent à avoir une image lisse quand même, regardes. Ouais.
C'est Pellegrini, hein, c'est pas un mec
City, qui fait pas de bagues. Hein. Ils achètent pas de joueurs un peu barrés. Le PSG.
Balotelli, il était pas barré.
Balotelli, ouais, mais c'était il y a 4 ans déjà, Balotelli. Mais tu vois, les mecs
PSG
commencent à...
Zlatan, quand même.
De toute façon, les mecs, ils ont compris, de pro, bien sûr, mais pour lancer l'équipe. Mais les mecs ont besoin, ils veulent faire du blé. Ils investissent dans le foot aussi pour l'image. L'image du Qatar, je pense au PSG en disant ça. Mais ils veulent... et un mec comme Mourinho, à mon avis, c'est à l'antithèse de l'image qu'ils ont envie de donner je pense de leur pays.
Bah, c'est un peu pour ça que Leonardo n'est pas resté. Parce que je pense qu'il faisait du bon boulot en tant que directeur sportif.
Bah, tout le monde avait l'air de l'aimer. Ouais.
Mais qu'après, ce qui s'est passé, s'il part, et il aurait pu revenir après sa suspension.
Là, il peut, là,
mais je pense que Nasser, il ne le reprend pas aussi parce que l'image de son PSG était entachée.
Ouais, et que ça va compliquer le rôle du PSG au sein du football français parce qu'il y a toujours ces rancœurs, ces machins, ces trucs.
De toute manière, on voit bien l'attitude.
Et même au niveau de l'UEFA en français.
On voit l'attitude qu'a eu Paris là, avec sa suspension. Quoi. Ils auraient pu ouvrir et puis en fait, ils ont bien fermé et ils sont arrangés pour bien limiter les dépenses, les frais fixes, tout ça, histoire de pouvoir être libéré.
Ouais, ils sont vraiment en mode on fait pas de vagues.
Hein. Tu parles du fair play financier.
Oui, du fair play financier.
Ouais, ils veulent pas faire de vagues.
Justement, ils ont essayé de.
Alors qu'ils auraient pu casser le truc, hein, parce que. Ah oui, voilà, quand tu vois d'autres contrats en Angleterre, ils auraient pu attaquer sur les enfin, le.
Voilà, ils ont été hyper hyper soft, alors que si jamais ils voulaient attaquer,
ils auraient gagné.
Mais il y a d'autres enjeux, il y a la Coupe du Monde au Qatar, il y a des trucs comme ça, ils veulent pas faire de vagues. À mon avis, c'est très géopolitique tout ça.
Je pense qu'il serre les fesses hein, de ce côté-là parce qu'ils ont peur que la Coupe du Monde au Qatar elle saute. Hein. Et là, je pense qu'ils perdraient beaucoup au niveau du tourisme, etc. Et 2022, c'est loin encore.
Ouais, 2022, c'est loin, c'est clair. Donc, pour moi, Chelsea Mourinho, c'est fini. Et non, j'espère qu'ils vont se faire sortir en 8e de la Ligue des Champions.
Ouais, moi cohérent, je déteste toujours autant Mourinho et Chelsea. Enfin,
moi, c'est pas que je déteste, l'homme. C'est juste que j'y crois pas.
Mais pour moi, il y a encore des chances. Enfin, genre, on est 5 jours, hein, il y a beau avoir 11 points. 5 jours, il peut remonter et puis arriver dans
11
le.
11 points, c'est un gouffre hein, quand même.
Mais c'est pas tant un gouffre que ça. Enfin, pour moi, c'est pas tant un gouffre que ça. Sur des équipes qui se valent.
Mais après, ça dépendra de la capacité de City à rester au niveau.
Ouais. Je pense que c'est City qui allait clairement
parce,
en fait.
Parce que je pense que United, ils sont pas. Il y a trop de nouveaux joueurs cette année pour espérer faire quelque chose.
Ils iront accrocher la Ligue des Champions.
Ah non, mais je jouais le titre.
Ouais, c'est trop compliqué.
Ils peuvent revenir. Enfin, c'est peut-être un Diesel qui s'est mis tout doucement en marche. Et puis Gillo Boggi qui va monter en puissance. et qui va assurer une défense
papy,
de fer.
C'est pour toi. Regarde, l'année dernière, Lyon, ils ont fait un mois d'août catastrophique. Ils étaient 17e. Résultat, les points qu'ils avaient perdus au début, ils n'ont jamais pu les rattraper. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça aussi.
Enfin bon, ils étaient quand même premiers pendant longtemps.
Ouais, ils ont été premiers pendant longtemps, ouais, mais ce delta de points qu'ils ont perdu au mois d'août, où ils ont fait un très mauvais mois d'août, ça leur manque à la fin quand même. Et je pense que le mois d'août est fondamental dans une saison.
Non, tu peux pas compter comme ça. Dans ce cas-là, tu dis le PSG, tous les matchs nuls qu'ils ont fait, s'ils avaient eu les points.
Alors moi, je reste persuadé que le championnat, tu peux pas le gagner au mois d'août, mais je reste persuadé que tu peux le perdre. Et je pense que là, Chelsea l'a perdu.
C'est beau.
C'est beau,
ouais,
pas
c'est beau, mais moi je trouve que c'est une phrase bidon. Mais
ok,
c'est
merci
beau,
Maurice.
C'est beau, c'est beau.
Mais bon. C'est une phrase de vestiaire. Bon, ok, donc je suis tout seul à penser que Chelsea c'est fini.
Bon, on verra
avec
Chelsea,
la blague Capri, c'est fini.
Mardi, mercredi, là, je sais pas quand est-ce qu'ils jouent quand même.
Alors ce soir, on est lundi. Demain, il y a Ligue des Champions avec Malmö PSG.
PSG Malmö,
pardon. Et après-demain, on a Lyon. Donc on vous propose à la prochaine émission de faire un débrief sur le football français en Ligue des Champions. Et pourquoi pas essayer de voir un peu sur tout ce qui est...
On aura la Gantoise-Lyon aussi à débriefer en même temps.
Ouais, on va parler un peu du foot français en général. Et puis peut-être qu'on va essayer de dériver un peu sur la gouvernance du football français. Ce serait peut-être le bon moment avec toute la création de la première ligue, hein. Etc. Gilles-Antoine, on va regarder tout ça pour la semaine prochaine. Ouais. Donc Ligue des Champions, gouvernance du football français avec Le Graët et Thierry Hez.
On essaiera d'en parler, on verra parce que le débrief de la Ligue des Champions, ça va peut-être être un peu beaucoup.
Et puis la gouvernance, c'est quand même un gros truc. Enfin, pour être passionné de Formule 1 et la gouvernance, ça a l'air de partir dans le même bazar qu'en Formule Ligue. 1. Le football français, donc du coup
on finisse pas avec une ligue fermée quoi.
Mais la gouvernance a des incidences sur les résultats aussi en Europe, c'est ça qui est important.
Ouais, c'est sûr.
Donc voilà, on espère que Jonathan sera là, on essaiera de ramener un ou deux guests peut-être Bastien, on verra, on va essayer de recruter aussi. Merci de nous avoir écoutés et puis
soyez sages
soyez sages
et regardez tout ça, regardez le foot là pour que on puisse on puisse faire écho avec vous de tout ça.
Et pour le coup, vous pouvez nous suivre aussi sur passement-2-jambes.fr. On met tous nos podcasts en ligne et d'autres surprises aussi un peu graphiques. Vous allez voir, c'est marrant. passement-2-jambes.fr. À la semaine prochaine.
Salut. Bye.